France Culture.
Pietri, votre enquête complète est à retrouver en longueur sur l'appli Radio France. On est le 6 juin, c'est la journée mondiale de la mini-jupe. Oui, elle a été lancée en 2015 à Tunis, une action de solidarité à l'époque envers une jeune étudiante qui n'a pas eu le droit de passer un examen à l'université en Algérie parce qu'elle portait une mini-jupe. Ce vêtement est utilisé comme un symbole d'émancipation depuis sa création, Emeline Bonavent.
La mini-jupe est développée par la styliste anglaise Marie Kant au début des années 60. Jeannine Mossulaveau, directrice de recherche émérite spécialisée dans les questions du genre à Sciences Po Paris, se souvient de son arrivée révolutionnaire en France.
Ça disait que on était libre de montrer son corps, parce que la façon de s'habiller pendant des siècles, ça consistait à cacher son corps. Et c'est vrai qu'elle est devenue de plus en plus courte. D'ailleurs, celles qu'on voit maintenant, ils sont là vraiment au ras de la joie de vivre. Je dis, il ne faut pas qu'il y ait un petit coup de vent parce que, bon, ça n'allait pas jusque-là, mais il y en a qui, voilà, se rapprochaient. Pour certaines femmes, c'était la preuve qu'elles s'émancipaient.
Une émancipation difficile. L'arrivée de ce vêtement fait évidemment l'objet de critiques et les femmes qui en portent se retrouvent en première ligne.
Les mères ou grand-mères de l'époque disaient, sors pas comme ça, toute dépoitraillée. Ça disait vraiment l'écart des générations, disons. J'ai des amis qui raccourcissaient leur jupe d'année en année pour arriver, sans que ça se voit trop, à quelque chose de plus court. Ça se faisait naturellement, on avait envie d'être comme ça, quoi.
La difficulté est toujours d'actualité. Pour Zoé, une étudiante, elle estime que les femmes qui portent des mini-jupes restent la cible de remarques.
Quand on sort dans la rue, on se rend compte en fait, de l'acte de résistance que ça peut être parce que les regards sont insistants et on se rend compte que c'est pas totalement accepté aujourd'hui, mais à la base, je la porte juste parce que je me trouve belle dedans.
Selon le baromètre du sexisme du Haut Conseil à l'égalité, publié l'année dernière, plus d'une femme sur deux renonce à s'habiller comme elle le souhaite, par peur de commentaires ou de regards.
Emeline Bonavent, le temps demain, le ciel sera très nuageux sur la plupart des régions, du sud-ouest à l'Alsace. Le soleil sera en revanche bien présent dans le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Les températures maximales affichent 16 à 21 degrés sur la moitié nord, 18 à 23 degrés sur le sud-ouest. Elles atteignent jusqu'à 25 voire 30 degrés en bord de Méditerranée et en basse vallée du Rhône. Ce journal est désormais terminé. Olivier Arnaud à la technique. 18h20 sur France Culture, on retrouve tout de suite Quentin Lafay pour Question du soir.
Merci beaucoup Nicolas Balu, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal et bienvenue à toutes et à tous dans Question du soir 1h30, comme chaque soir de débats, d'analyses, de rencontres et de découvertes et à 19h dans l'actualité vue par les idées et la recherche, lumière sur les pianos pillés par les nazis et sur l'histoire de leur restitution, on en parlera avec Caroline Piketty, elle est archiviste émérite des archives nationale et fait paraître Harmonie volée, printemps 1945, le retour des pianos pillés par les nazis. Ça vient de paraître, je le disais, aux éditions de l'Archipel. Mais pour l'heure, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
En début de semaine, lundi plus exactement, la proposition de loi de Gabriel Attal visant à élever Alfred Dreyfus au rang de général à titre posthume a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors quelles ambitions vive la réhabilitation prolongée d'Alfred Dreyfus? Pourquoi réhabiliter, commémorer et au-delà, pourquoi les responsables politiques s'appuient-ils constamment sur l'histoire pour gouverner, mettre en lumière leurs idées ou défendre des valeurs? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Bertrand Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et l'auteur notamment de cet ouvrage intitulé « Histoire politique de l'affaire Dreyfus » qui a paru en 2014 aux éditions Fayard. Face à vous, Sébastien Ledoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste des enjeux de mémoire, maître de conférences à l'Université Picardie Jules Verne, l'auteur également de ce livre intitulé « Vichy était-il la France ?» avec un point d'interrogation. Le Veldiv et sa mémoire » qui a paru le mois dernier chez JC Lattès. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et commençons d'abord par cette question que j'adresse aux deux historiens que vous êtes, et Sébastien Ledoux pour commencer. Est-ce qu'il y a chez vous, chez votre, dans votre corporation en général, un malaise lorsque les responsables politiques s'approprient l'histoire, parlent d'histoire? Est-ce qu'il y a chez eux, vous pensez, une façon de le faire d'une manière sincère?
Alors c'est tout un objet d'étude votre question, je vais répondre brièvement. Si vous voulez, d'une façon générale, non, dans le cas français. Ça peut être beaucoup plus problématique quand il y a des instrumentalisations de l'histoire dans certains pays, je pense à la Russie notamment actuellement, la Pologne, il y a eu tout un débat récemment sur une loi. Mais il y a eu quand même une réaction de beaucoup d'historiens, notamment en 2005, avec différentes affaires, dont la loi donc du 23 février 2005 qui justement intégrait un amendement pour enseigner le rôle positif de la colonisation. Et là, on a vu une réaction des historiens. Donc, je dirais ça dépend. D'une façon générale, on l'accepte parce qu'on considère qu'effectivement, ça fait partie d'une prérogative politique. Mais il peut y avoir effectivement des interventions d'historiennes et d'historiens juste sur ces politiques mémorielles.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, une prérogative de politique ?
Je veux dire par là que depuis le début de la Ve République, en fait, on a toute une tradition du côté du chef de l'État, donc c'est parti avec De Gaulle, hein, notamment, pour considérer que le chef de l'État était celui qui était une sorte de locuteur de la nation et de l'histoire nationale. Hein, donc Patrick Garcia a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un collègue, et donc pour affirmer que finalement, il n'y a rien d'indiqué dans la Constitution, mais on est dans une prérogative présidentielle de dire l'histoire et dire l'histoire nationale. Voilà, donc, et là-dessus, personne, à ma connaissance, n'a contesté justement cette attribution.
Bertrand Joly, même question, est-ce que vous sentez personnellement, intimement même, allons jusque-là, un malaise lorsque vous entendez des responsables politiques parler d'histoire, aborder le passé?
Je suis tenté de répondre, tout dépend de la façon dont ils le font. Vous avez raison, c'est toujours un peu instrumentalisé, c'est quand même rarement tout à fait innocent. Mais ce n'est pas une nouveauté. Sous les régimes précédents, notamment dans les débats parlementaires, l'histoire est constamment présente. Il y a eu des travaux sur cette question-là. L'histoire est tout à fait utilisée par les deux camps et de façon, bien sûr, totalement antagoniste et contradictoire. Donc l'histoire fait partie de la culture, du bagage de Monsieur Tout-le-Monde, et donc il est normal qu'elle serve. Cela dit, comment s'en servir, avec quels paramètres, quels garde-fous aussi, là est le débat. Il y a des utilisateurs malhonnêtes, il y en a des honnêtes par définition. Donc, j'ai constaté, moi, quand j'étais, maintenant je suis à la retraite, j'ai constaté à l'université, il y avait, oui, parfois des réticences devant certaines... C'est pas systématique, mais devant certaines prises de position qui paraissaient peut-être un peu... Le mot racoleur, c'était un peu fort, mais qui néanmoins était non dénué d'arrière-pensée, qui n'était, elle, pas historique.
Mais si je vais dans votre sens, est-ce qu'il peut y avoir un usage non instrumental de l'histoire par les responsables politiques, ou seuls les historiens peuvent faire sincèrement, avec des guillemets, de l'histoire ?
Ah, d'abord, tout le monde a le droit de faire de l'histoire, c'est dans notre pays, et heureusement.
Avec une démarche d'historien, je crois.
Avec une démarche, à condition de respecter les règles du métier, qui sont claires et nettes, et qui n'ont rien d'insupportable. Tout le monde peut faire de l'histoire, et tout le monde en fait d'une certaine façon. On fait d'ailleurs sa propre histoire à soi, par définition, ou celle de son village. Donc, l'histoire n'est le monopole de personne, donc les hommes politiques ont le droit de s'en servir, à condition de le faire de manière, encore une fois, loyale, pour éclairer le débat, pour prendre des exemples. Mais je crois que ce n'est pas, encore une fois, toujours le cas.
L'actualité, c'est une proposition de loi qui a animé justement les débats à l'Assemblée nationale cette semaine. Je voudrais vous faire entendre une voix, celle de Michel Dreyfus. Il est l'arrière-petit-fils d'Alfred Dreyfus et il était invité d'RTL Matin.
Le combat, je pourrais dire, peut-être pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années, c'est de réhabiliter la personne d'Alfred Dreyfus. Parce que depuis toujours, y compris par ses défenseurs, il a été attaqué, dénigré, dévalorisé, considéré comme pas acteur de son histoire. D'ailleurs, rien compris. Enfin, il y a une flopée de choses extrêmement désagréables qui ont été dites. Depuis plusieurs années, à la fois la famille et puis les historiens, et en particulier Philippe Auriol et Vincent Duclerc, se sont battus pour réhabiliter la personne. Alors qu'au niveau judiciaire, il avait été réhabilité invité, mais de dire que ça avait été quelqu'un qui avait été un acteur de toute son histoire, pas du tout passif, et qu'on peut considérer aujourd'hui comme un héros, qui s'est vraiment battu, et qui est même retourné, alors qu'il avait démissionné de l'armée, qui est retourné dans l'armée pour se battre pendant la Première Guerre mondiale.
Et je le rappelle, la proposition de loi de Gabriel Attal visant à élever Alfred Dreyfus au rang de général à titre posthume a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale ce lundi. Sébastien Ledoux, est-ce que c'est une avancée alors de ce point de vue-là ?
Alors, c'est une avancée, je ne sais pas ce que vous mettez dans avancée, mais...
C'est à vous de me le dire. En
oui, d'accord. Donc, c'était une demande de Dreyfus lui-même à l'époque, qui n'a pas obtenu satisfaction. Et donc, presque 120 ans plus tard, on a une initiative politique appuyée par la famille, on vient de l'entendre, pour justement reconstituer la carrière, comme on dit, de Dreyfus, en considérant que, finalement, s'il n'avait pas été condamné, il aurait... Il serait devenu, a priori, c'est un peu fictif, hein, c'est vrai, mais il serait, a priori, effectivement, devenu général. Et donc, on va, oui, plus loin. On va plus loin que la réhabilitation de 1906, avec le vote de cette loi, si vous voulez. Oui.
Qu'est-ce que cela permet, dans le fond, Bertrand Joly, le vote de cette proposition de loi ? Je crois que vous n'en êtes pas nécessairement satisfait vous-même.
Non, moi je ne l'aurais sans doute pas voté, mais peu importe. D'abord, ce n'est pas une question très importante dans la France d'aujourd'hui, et je pense que la loi soit votée ou pas votée n'a pas beaucoup d'importance. Mais il faut bien voir une chose, c'est que quand Dreyfus est réhabilité en 1906, en effet, il est réintégré dans l'armée par une loi spéciale, ce qui est déjà... à mon avis contestable, et a été contesté à l'époque d'ailleurs, alors que le ministre de la Guerre aurait très bien pu, de lui-même, par un acte de son autorité administrative, le réintégrer dans l'armée. Et il est intégré sans qu'on lui compte toutes les années qu'il a perdues. Alors que Picard est réintégré par le même jour, par une autre loi, le même jour, avec un rappel d'ancienneté important. C'est-à-dire que Picard a pu devenir général, Dreyfus, lui, sa carrière était irrémédiablement... partait, si je puis dire. Il pouvait espérer au mieux finir en grade de lieutenant-colonel ou colonel.
Mais alors cette semaine, on a corrigé une erreur en quelque sorte.
Ben, vous savez, je crois que Dreyfus a été victime de deux erreurs. La première est épouvantable, c'est son accusation à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et la deuxième, c'est en effet cette brimade de carrière qu'il a subie. Mais je pense que pour l'éternité, Dreyfus restera le capitaine Dreyfus. Un homme, à mon avis, pas un héros, je contredis un petit peu son descendant, pas un héros, mais un homme extrêmement courageux, qui a eu le courage de se battre, de rester en vie, dans des conditions épouvantables en plus. Alors que tout était fait pour qu'il passe de vie à trépas. Il a réussi à survivre, il est rentré, et en effet, les historiens se sont trompés pendant longtemps, il n'a pas été passif dans le combat postérieur à sa réhabilitation.
C'est vrai qu'on a souvent l'image d'un Dreyfus, d'un Alfred Dreyfus atone qui s'est laissé porter par les événements, que d'autres avaient porté ce combat pour lui-même.
Non, c'est une erreur. Par exemple, il a polémiqué extrêmement fortement et devant les tribunaux contre l'action française qui, malgré la réhabilitation, a continué à le traiter de traître et à l'injurier dans des proportions insupportables.
Je voudrais justement citer Alfred Dreyfus, et il disait « Si on m'avait donné le rang auquel j'ai droit, je n'eusse voulu d'aucune faveur. J'aurais pu réfléchir et peut-être, quel que soit l'état de ma santé et de mon cœur que la faculté reconnaît comme atteint, sacrifier encore quelque chose de ma vie. Mais on ne l'a pas fait. J'ai la conscience d'avoir fait mon devoir. Le gouvernement n'a pas fait le sien. » Est-ce que l'erreur et l'injustice sont désormais réparées pour vous, Sébastien Ledoux ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Bertrand Joly lorsqu'il dit que dans la France d'aujourd'hui, cela n'a pas beaucoup d'importance.
Bon, je ne pourrais pas l'évaluer, ça, hein, évidemment. Je ne suis pas en mesure d'évaluer si ça a une importance dans la France d'aujourd'hui. Il y a un acte d'injustice qui est flagrant. La réparation ne me semble pas illégitime, évidemment. Et puis, il faut quand même dire ce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission. Je veux dire qu'il y a le capitaine Dreyfus et tout ce que ça charrie comme symbolique derrière. Je veux dire que c'est évidemment ça dont il est question aujourd'hui, à travers le vote de cette loi.
Le combat contre l'antisémitisme, notamment.
Notamment le combat contre l'antisémitisme, mais pas simplement, c'est-à-dire le combat pour une justice indépendante et à cette époque-là indépendante de l'armée. Hein, donc c'était aussi ça l'un des combats forts hein, de cette période de fin des années 1890, début des années 1900. Hein, c'est une justice indépendante. Et puis il y a le combat pour la vérité. Hein, je pense que là aussi, si on est dans une démocratie, on croit un petit peu à des valeurs autour de justice et vérité quand même. Donc là, il y a quelque chose qui... le dépasse largement. Hein, et depuis, d'ailleurs, à son époque même, hein, 1899 notamment, hein, donc avec tous ces débats, avec Zola, avec Bernard Lazare, hein, qui participe justement à ce combat-là. Et depuis, en fait, il incarne quelque chose du côté de la République. Hein, donc c'est aussi ça qu'on va justement défendre encore aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que vous mettez, Bertrand Joly, derrière cette réhabilitation prolongée, les mêmes symboles, notamment la recherche de vérité, l'attachement à une justice indépendante et le combat, évidemment, contre l'antisémitisme ?
Moi, ça, toutes ces valeurs que vous citez, qui peut les contester, bien entendu ? Tout le monde veut que la justice soit indépendante et que la vérité l'emporte. Ça, je crois que, à part problèmes psychologiques graves, il n'y a pas de désaccord entre nous.
Vous n'avez pas cité le combat contre l'antisémitisme,
non ? Excusez-moi, parce qu'il est tout à fait aussi important que les autres. Il y en a d'autres aussi, d'ailleurs, que d'autres combats à mener. Puisque nous sommes dans le cas précis de Dreyfus, je crois que, de cette manière, la loi ne corrige pas une correction posthume, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres erreurs qui n'ont pas été corrigées de façon posthume, alors qu'on les connaît. Je ne vois pas pourquoi on s'engage dans une voie qui me paraît pas scandaleuse, n'exagérons rien, qui me paraît un peu dérisoire. Et je crois qu'il y a une volonté de corriger le passé, en quelque sorte, qui ne me paraît pas très saine, à mon avis.
Est-ce que vous partagez le malaise partagé, si je puis dire, par certains députés, notamment certains députés appartenant au parti du Modem, Sébastien Ledoux, lorsqu'ils expriment le fait qu'il est compliqué d'entendre que des députés Rassemblement National, un parti, je le rappelle, fondé par une idéologie enracinée et liée à Charles Maurras, que ce parti-là ait pu voter justement la réhabilitation d'Alfred Dreyfus et se rattacher à cette histoire-là justement de lutte contre l'antisémitisme.
Alors, je trouve que c'est une position intéressante parce que elle nous permet, en tout cas moi, elle me permet en historien de la mémoire de considérer que justement on est à la fois dans des usages publics de l'histoire, des usages politiques de l'histoire, des usages publics de l'histoire, qui à la fois recherchent une sorte de consensus politique et qui n'atteint là pas forcément son but. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est sur un objet mémoriel, c'est-à-dire un présent du passé. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que oui, il y a une recomposition politique depuis quelques années sur la question de l'antisémitisme en France, et que donc on sait très bien que du côté de l'extrême droite et du côté du Rassemblement National, la recherche d'honorabilité passe justement par la lutte contre l'antisémitisme, avec donc Marine Le Pen qui va se considérer comme bouclier des Juifs. Hein, et la grande défenseur des Juifs, c'est à l'entendre, elle, Marine Le Pen. Donc il y a évidemment de la part de ce parti d'extrême droite un revirement total par rapport à ce courant politique qui justement a été anti-Dreyfusard dès le départ, mais pendant tout le XXe siècle. Jusqu'aux années 1990, vous avez régulièrement lors de fêtes du Rassemblement National, enfin du Front National, autrefois appelé, des livres qui sont distribués qui attaquent encore Dreyfus. Donc on est sur vraiment une tradition politique anti-Dreyfusarde pendant presque 100 ans. Et là, depuis quelques années, on a effectivement ce changement, je dirais, de paradigme de la part de Marine Le Pen, mais qui est pour moi aussi avec une visée électoraliste évidente, hein, d'accord ? Donc il y a aussi de l'instrumentalisation, bien sûr. Et puis du côté de l'extrême gauche, une recomposition politique liée à l'antisémitisme où vous avez effectivement des prises de position qui sont, pour le coup, antisémites de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques situés à l'extrême gauche.
Si je reste un instant, Sébastien Ledoux, sur l'extrême droite, on pourrait se dire, après tout, c'est bien que les traditions que vous décrivez évoluent. C'est utile que l'extrême droite se range dans ce combat de lutte contre l'antisémitisme, non ?
Alors, avec
ou pour vous, ce n'est qu'instrumentalisation, là encore, j'allais dire.
Non, c'est-à-dire que, avec toutes les ambiguïtés que cela comporte, c'est-à-dire qu'on a vu aussi, du côté des élections législatives, certains candidats qui n'avaient pas forcément compris, justement, la variante de Marine Le Pen depuis quelques années, et donc avec des déclarations antisémites. Donc,
avec voilà. Des propos clairement antisémites, affichés, revendiqués.
Revendiqués, donc, si vous voulez, c'est... voilà, on est avec un antisémitisme qui est encore présent dans ce courant politique. Là, c'est indéniable.
Bertrand Joly, votre point de vue ?
D'abord, vous posez la question qui est très débattue en ce moment entre observateurs sur le, disons, le tournant, pour prendre un mot neutre, du Rassemblement National. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce que simplement c'est le rhabillage présentable d'un fond qui, lui, n'aurait pas bougé. Ça, c'est, j'avoue que je ne connais pas assez bien les arcanes du RN pour vous répondre. Mais en tout cas, le débat existe. Hein. Donc, les partisans du changement réel ou du changement cosmétique.
Non, mais vous-même, en tant qu'historien, comme vous connaissez l'histoire de ce parti, est-ce que là aussi, vous voyez, j'allais dire, vous identifiez même une dissonance entre le vote d'aujourd'hui et les actes et les mots d'hier?
Vous savez, d'abord, des partis qui changent, c'est assez fréquent, voire même qui retournent leur veste de manière spectaculaire. Dans toute l'histoire politique de la France, on a beaucoup d'exemples de changements à vue et du jour au lendemain. Dans le cas que vous évoquez précisément, je pense que le RN a un problème, c'est que sa croissance électorale fait qu'il attire des populations nouvelles qu'il doit essayer d'intégrer, de retenir, et que peut-être une division trop abrupte, une carapace trop rugueuse pourrait les éloigner. Donc il a quand même, qu'il soit sincère ou pas, il a à mon avis intérêt à mettre un petit peu d'eau dans son vin.
Une autre instrumentalisation, Sébastien Ledoux, instrumentalisation politique qui a été pointée, c'est celle du gouvernement, de la majorité présidentielle. Le ministre des Affaires étrangères israélien accuse en effet Emmanuel Macron d'être en croisade contre l'État juif, de faire un cadeau au Hamas en expliquant vouloir reconnaître l'État palestinien. Est-ce que là encore, il faut, j'allais dire, lire la réhabilitation d'Alfred Dreyfus dans ce contexte bien précis?
Alors, en tout cas, là, évidemment, c'est difficile de répondre. En tout cas, ce qui me semble possible de dire, c'est qu'on est dans un contexte post-7 octobre 2023, avec une recrudescence des actes antisémites en France, et que, évidemment, il y a une opportunité politique. Là, je porte pas de jugement. Mais il y avait aussi une opportunité politique à travers cette initiative portée par Gabriel Attal faire acte de réparation lié à Dreyfus, qui est effectivement aujourd'hui un symbole de la lutte contre l'antisémitisme. Ça me paraît assez évident. J'enfonce peut-être des portes ouvertes ici, mais on est dans ce contexte-là précis. Alors, je sais pas, là, je suis un peu moins sûr, je vous suivrai un peu moins si c'est pour effectivement chercher un équilibre vis-à-vis de Netanyahou. Là, je veux dire, bon, je suis un peu plus circonspect. Mais en tout cas, oui, lié au conflit entre le Hamas et Israël, bien sûr.
Une question, Sébastien Ledoux, plus large, cette fois-ci en tant qu'historien et spécialiste de la mémoire, ça sert à quoi de réhabiliter? Est-ce qu'on a là une anomalie avec le cas d'Alfred Dreyfus, ou il y a bien d'autres cas dans la République qui ont permis de comprendre, de saisir à quoi servait la réhabilitation?
Alors, je dirais que, puisque j'ai travaillé un certain nombre d'années sur le devoir de mémoire, et l'histoire du devoir de mémoire, je dirais que les politiques mémorielles, depuis les années 80-90, sont des politiques, pas exclusivement, mais quand même en grande partie des politiques de reconnaissance et de réparation. Hein, donc ce paradigme-là, hein, c'est un nouveau paradigme mémoriel qui n'existe pas que en France, hein, qu'on voit ailleurs, bah, donc dans d'autres sociétés. Mais disons que c'est devenu un paradigme dominant des politiques mémorielles dites de réparation. Alors des réparations liées à des victimes de crimes de masse, de génocide, de crimes contre l'humanité, etc., etc. Donc plutôt des victimes civiles. Mmh. Et pour bien être clair pour les auditeurs, hein, donc ce qui effectivement était une inflexion par rapport à une politique mémorielle traditionnelle qui était plutôt un hommage aux héros, puisqu'il a été question de Dreyfus comme héros point d'interrogation tout à l'heure. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement on était plutôt sur auparavant des politiques qui rendaient surtout hommage à des héros, à des combattants, à des résistants, etc., etc. Donc là on change un peu de paradigme, et donc la question de la réparation, la réhabilitation, pour moi est une forme de réparation qui suit cette narration-là, ce narratif, comme on dit aujourd'hui, hein, si vous voulez, ce narratif des politiques mémorielles.
Bertrand Joly, comment vous abordez vous-même cette question de la réhabilitation? Comment vous inscrivez celle d'Alfred Dreyfus dans la politique de la mémoire, la politique de commémoration de la République française?
Je crois que l'affaire Dreyfus est quand même aujourd'hui assez bien connue. Et je sauf une trouvaille archivistique miraculeuse, qui est toujours possible, bien sûr. Je crois que on ne travaillera plus quand même que sur des zones d'ombre encore assez peu nombreuses et limitées. Vous savez, les réparations ne sont pas, c'est pas totalement une chose nouvelle. On a un bon exemple, justement, lié à Dreyfus, c'est le Schurer Kestner, qui a été un des premiers défenseurs de Dreyfus, et très courageusement, et il y a perdu sa vice-présidente du Sénat, et dans des conditions même presque insultantes pour lui. Hein, et il est mort avant la réhabilitation de Dreyfus. Et après sa mort, les sénateurs ont quand même fait un geste réparatoire, si l'on veut. Ils ont fait installer son buste dans la galerie du Sénat, avec une cérémonie, bien sûr, d'inauguration. Donc, les hommages, en effet, aux héros, aux grands hommes, sont une chose ancienne. Est-ce qu'on change de manière d'être? Oui, je pense que vous avez raison. C'est peut-être moins personnalisé aujourd'hui, plus globalisant. Dans le cas de Dreyfus, encore une fois, pour moi, ce qui fait la force de l'affaire Dreyfus, ce qui fait sa puissance émotive et même symbolique et même pédagogique, c'est le fait qu'il a été victime d'une grande injustice. C'est ça qui compte. Et qu'il reste, encore une fois, je l'ai déjà dit, je répète, pour l'éternité, il reste le capitaine Dreyfus. Un homme qui a été victime d'une abominable erreur, suivie de machinations scandaleuses pour prolonger l'erreur. C'est ça la réalité.
On a beaucoup parlé des ramifications de l'affaire Dreyfus. On a beaucoup expliqué que cette affaire avait scindé la France en deux, bien au-delà de l'affaire elle-même, qu'elle avait perturbé dans le temps, des décennies durant. Jusqu'à quand elle a structuré, justement...
Je suis extrêmement sceptique sur cette vision des choses, que j'ai essayé d'ailleurs de combattre. C'est que la France n'a pas été aussi coupée en deux qu'on l'a dit sur le moment. Bien sûr, il y a eu des ruptures extrêmement fracassantes, publiques, et des gens qui ont arrêté de se voir, qui ont rompu très brutalement. Mais je pense que dans les tréfonds des campagnes françaises, je ne pense pas qu'on ait beaucoup, qu'on soit beaucoup battu pour Dreyfus. Dans une monographie très connue sur un petit village des Deux-Sèvres, l'auteur parle à fin de Dreyfus et dit qu'en fait, on ne reparlait. Il y avait, bon, deux ou trois habitants du village étaient en effet très motivés. Mais bon, le problème de l'heure, c'était, est-ce qu'on va adopter la charrue d'Ombal, la nouvelle charrue? C'était ça qui importait aux Français. Les Français, beaucoup d'entre eux n'ont pas convu dans l'affaire, à tort ou à raison, en partie à tort à mon avis d'ailleurs, ils n'ont pas vu dans l'affaire un grand combat symbolique qui mettait en valeur les valeurs de la société et son devenir.
Sébastien Ledoux, la France n'a pas été divisée entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard aussi longtemps qu'on a bien voulu le raconter. Si je me situe cette fois-ci du point de vue du spectre politique, j'allais dire des intellectuels, également des journalistes français, il n'y a pas eu longtemps quand même ce clivage là qui perdurait entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard, au-delà de l'affaire?
Alors, on le sait, on peut répondre à votre question grâce à des travaux d'historiennes et d'historiens maintenant, justement, de façon un peu plus fine. Mm-hmm. Et donc, la réalité, telle qu'ils la décrivent, en fait, elle se situe pas dans une France coupée en deux, mais dans une mobilisation qui ne concerne pas la population française dans son ensemble, ça c'est évident, ça vient d'être dit, mais dans un cercle, je dirais, un peu plus large quand même que simplement des élites intellectuelles, culturelles, médiatiques, parisiennes. Voilà, donc la vérité se trouve entre les deux, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a quand même une mobilisation d'un certain nombre de Français au-delà de Paris, dans certaines villes, qui font des pétitions pour ou contre Dreyfus. Donc une mobilisation certaine, mais qui ne couvre absolument pas, effectivement, l'ensemble de la population française. Donc c'est une image d'Épinal, si vous voulez, hein, cette France coupée en deux entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Il faut lui tordre le cou aujourd'hui.
Mais ce mouvement contre Dreyfus, Bertrand Joly, ces personnes qui se sont mobilisées contre sa personne, il y a bien tout de même là, cette fois-ci, des ramifications politiques, il y a bien des héritiers à ce mouvement, des héritiers...
L'Action française est née l'affaire Dreyfus et a eu, à mon avis, d'un point de vue tactique, elle a eu tort de rester dans l'affaire Dreyfus. On connaît le fameux cri de Maurras en 45, qui est condamné par le tribunal de Lyon à la détention à perpétuité. C'est la revanche de Dreyfus, ce qui prouvait quand même, ce qui prouve un enfermement intellectuel quand même assez surprenant. Il n'avait quand même pas bien compris ce qui se passait en France entre 40 et 45 à l'évidence. Mais l'Action française, encore une fois, a pendant près d'un demi-siècle, réellement joué de l'affaire Dreyfus. On a profité, on parlait, il revenait incessamment à publier. On évoquait tout à l'heure des ouvrages hostiles à des ouvrages anti-Dreyfusard. Avec le danger aussi, c'est Jacques Laurent, je crois, l'écrivain qui était Action française et qui dit... Il parle des années 30, finalement. Nous, on avait ras-le-bol. L'affaire Dreyfus, c'était un combat de nos ancêtres, de nos aînés. Nous, on voulait des combats d'aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, oui, il y a a perduré une mémoire anti-Dreyfusarde réelle.
Je voudrais vous faire entendre la voix, cette fois-ci, du président de la République qui annonce la panthéonisation de l'historien résistant, Marc Bloch.
La lucidité et de la résistance de Marc Bloch à la libération de Strasbourg. Il y a ce cortège des volontés qui ont permis à la France de redevenir libre. Cette confiance dans notre peuple, dans son audace. C'est pourquoi, en cette université et en ce jour, pour son œuvre, son enseignement et son courage, nous décidons que Marc Bloch entrera au Panthéon.
Sébastien Ledoux, on panthéonise un historien, c'est un peu l'histoire au carré là, non ?
Oui, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour m'opposer à cette décision. Marc Bloch, c'est quand même une grande figure intellectuelle, engagée jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mort, et puis un grand intellectuel qui a effectivement œuvré pour notre discipline. L'école des annales, etc. Donc c'est une personne qui a, là pour le coup, oui, les aspects d'un héros qui rencontre l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, et qui fait front, qui fait face à cette histoire-là en s'engageant dans la résistance. Donc c'est une figure admirable. Donc qui rejoint un peu les figures de la panthéonisation possible. Maintenant, je reste quand même historien de la mémoire et je suis obligé quand même d'analyser la séquence. Hein, et la séquence, c'est, je dirais, un retour des figures résistantes. Qui a commencé d'ailleurs avec Hollande, hein, donc en 2015.
Avec ses quatre résistants.
Avec les quatre résistants, deux hommes et deux femmes. Qui entrent au Panthéon. Et donc, on est, sur cette séquence-là, d'hommage aux résistants, Manouchian.
Avec les Manouchian, il y a deux ans. Voilà. Les Manouchian, le couple Manouchian.
Les Manouchian, donc on décline, si vous voulez, les figures résistantes. Mais on est sur, après le devoir de mémoire, hommage aux victimes, on est sur ce narratif d'hommage aux résistants.
Bertrand Joly, ce qui est discuté présentement, c'est aussi la panthéonisation possible d'Alfred Dreyfus, du capitaine Dreyfus selon vous. Est-ce qu'elle est souhaitable, cette panthéonisation ?
Oh, je me suis un peu heurté avec mon ami Vincent Duclerc là-dessus, qui est un grand partisan de la panthéonisation. Écoutez, moi je n'ai pas le culte des saints et des reliques, je l'avoue, et si on m'écoutait, on mettrait personne au Panthéon. Je pense toujours, je le répète toujours, ce mot de Jaurès qui est au Panthéon aujourd'hui, et qui dit un jour à Aristide Briand, ce qui me console dans l'action que je mène, une action qui était très dure, il était quand même injurié de manière extrême, c'est la perspective qu'après ma mort, j'irai dormir dans le cimetière de mon petit village avec les miens. On n'a pas tenu compte de ce qui quand même ressemblait à un vœu et un souhait, et on est mis au Panthéon. Encore une fois, j'espère que si je trouve la France, on ne me mettra pas au Panthéon, parce que je trouve cet endroit lugubre et parfaitement sinistre. Et encore une fois, si on m'écoutait, on ne mettrait personne au Panthéon. Cela dit, ce n'est que mon avis. Et
vous ne mettriez pas non plus Marc Bloch, alors, en tant qu'historien, vous ne mettriez même pas un historien.
Je ne mettrais personne, encore une fois, quel que soit son statut. Et Marc Bloch est quelqu'un d'extrêmement respectable, courageux et important.
Et aujourd'hui, il faut préciser que Alfred Dreyfus est enterré au cimetière de Montparnasse. Sébastien Ledoux, comment est-ce que vous voyez justement depuis quelques années évoluer cette politique mémoriale ? Vous avez dit, expliqué qu'elle est très largement centrée sur les résistants. Est-ce que vous identifiez néanmoins une instrumentalisation grandissante ou au fond, depuis François Mitterrand, cette instrumentalisation a toujours été évidente et pratiquement assumée ?
Alors, l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans ce qu'on peut appeler en histoire les usages publics du passé ou les usages publics de l'histoire. Dans l'instrumentalisation, c'est vrai qu'on pourrait y mettre beaucoup, beaucoup de choses négatives et dépréciatives. Mais tout ça pour dire qu'un choix n'est jamais neutre. Hein, y a aucune neutralité là-dedans, c'est impossible, et c'est évidemment c'est un leurre. Ce sont des choix politiques. Si on parle de politique mémorielle, c'est pas pour rien. Ça reste des choix proprement politiques, même si c'est des politiques du passé. On est sur des choix politiques qui sont là aussi quand même pour servir aux gouvernants. Hein. Donc il y a aussi cette dimension de capital symbolique qui avait été évoquée par Pierre Nora, donc qui a disparu il y a quelques jours. Et c'est vrai, la mémoire a une dimension, a cette dimension de capital symbolique pour un gouvernement ou pour un gouvernant dont il use et abuse. Finalement, Emmanuel Macron, effectivement, c'est un chef d'État qui multiplie les actes de panthéonisation. La question...
Simone Veil, les Manouchians, Marc Bloch, Dreyfus peut-être dans quelques mois.
Oui, la question qu'on peut poser, c'est effectivement, est-ce que ça relève pas de la communication politique, hein, puisque on parle de communicants et de communication politique, hein, où la politique se serait transformée en acte de communication. Est-ce que finalement les politiques mémorielles d'aujourd'hui ne relèvent pas justement d'actes de communication politique? Voilà, ça, c'est une question.
Je reviens sur cette question initiale, Bertrand Joly, question qu'on avait posée au début de cette émission. Qu'est-ce que ce serait un usage sain de l'histoire par les responsables politiques? Qu'est-ce que ce serait un usage presque non instrumental qui ne relèverait pas en tout cas de la communication politique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe?
Je ne pense pas qu'on puisse éliminer toute arrière-pensée de communication politique. C'est impossible. Un homme politique, de par sa nature, il communique. Bien ou mal, mais il est obligé de communiquer en permanence même. Donc, quand il sert l'histoire, ce n'est jamais neutre. Et de toute façon, l'histoire n'est jamais neutre. Tous les historiens le savent. Quand on écrit avec sa tête, son passé, ses sentiments, ses opinions, toute sa subjectivité. L'important est d'essayer de réduire le plus possible cet aspect subjectif, en sachant qu'on ne pourra jamais l'éliminer. Pour la politique, c'est pareil. Un homme politique qui se sert à l'histoire doit le faire honnêtement, le plus honnêtement possible. Mais ça ne sera jamais entièrement le service, le culte de la seule vérité.
Je reviens un peu sur ce que vous avez dit, Bertrand Joly, un peu plus tôt. Vous expliquiez que vous n'aviez pas besoin vous-même de héros ou de saints. Est-ce que la République, en revanche, a besoin de héros, plus que de saints, on s'en doute, mais de héros pour tenter de se construire, pour tenter de projeter un imaginaire et pour permettre à certaines peut-être aussi, de s'identifier?
Je crois qu'une société a besoin de grands hommes. L'important, c'est de savoir bien les choisir d'abord et bien les utiliser, ne pas verser dans l'idolâtrie, les voir tels qu'ils étaient, où c'était des hommes avec leur poids aussi de faiblesse humaine. On peut avoir un plus grand respect pour Charles de Gaulle, qui est quand même le grand homme français du XXe siècle, sans ignorer les côtés plus contestables parfois de son action. Une société saine doit avoir une relation saine avec son passé, avec son histoire, je crois.
Sébastien Ledoux, votre point de vue sur la nécessité ou non pour la République, pour... j'allais dire presque pour la société française, d'avoir des figures telles que ces héros-là.
En fait, la question, elle est effectivement à travers l'éducation à des valeurs et par quoi passe l'éducation à ces valeurs qu'on souhaite partager, des valeurs dites républicaines, évidemment, qu'on souhaite partager et qu'elles puissent s'incarner. Donc, c'est la question de l'incarnation qui est posée depuis quand même la nuit des temps, hein, finalement. Et donc, on avait des incarnations d'inspiration religieuse. Dans des sociétés laïcisées comme la société française, sont des incarnations plutôt à travers des figures historiques. Bon, donc je dirais que c'est un peu un incontournable presque de la condition sociale des individus de se retrouver à travers des symboles et donc des incarnations d'individus hommes ou femmes qu'on va admirer, mais tout en restant effectivement éloigné de toute idolâtrie. Là, je rejoins mon collègue.
On identifie dans le champ politique, médiatique, un mouvement anti-repentance qui gagne de plus en plus de terrain. Est-ce que vous identifiez là aussi, Sébastien Ledoux, un effet de ce mouvement, de ces prises de position, de ces prises de parole sur les politiques mémorielles telles qu'elles sont construites par les gouvernants contemporains?
Alors, la question de l'anti-repentance, elle apparaît dans les années 2000, si vous voulez, et elle est notamment portée...
Pas plus tôt.
Non, parce que ce qui est intéressant, c'est justement ce terme-là de repentance, il est évoqué, il est mentionné par les évêques de France en 1997 pour, justement, dans un sens positif, hein, pour demander pardon. Donc c'est un acte de repentance pour demander pardon par rapport à la déportation et l'extermination des Juifs en France. Donc là, à ce moment-là encore, si vous voulez, ce terme-là a une connotation tout à fait positive. Donc il va être utilisé, mobilisé à la fin des années 2000 et notamment par Nicolas Sarkozy pour effectivement infléchir la politique menée par Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac a vraiment mené une politique dite de reconnaissance et de réparation, notamment avec le Veldiv, mais pas simplement, hein, avec l'esclavage également, et donc de contrer cette politique-là en disant, bon, en gros, ça suffit, on ne va pas s'excuser tous les quatre matins pour ce que la France a pu faire, et donc on va plutôt chercher à ce que les concitoyens adorent la France et aient une image positive de la France. Et là, on est effectivement en pleine instrumentalisation de l'histoire, parce que, en même temps, si vous voulez, on avait des questions dites de réparation, mais qui étaient, pour reprendre le cas de Dreyfus, on était sur des questions de vérité historique. Hein, la question de la déportation des Juifs et de la complicité de Vichy, c'est une question de vérité historique aussi. Ce sont des travaux d'historiens et d'historiennes qui ont été menés par cela. Donc, on n'était pas simplement sur des actes de contrition. On était sur des actes de reconnaissance de vérité historique.
Je reviens, je termine, Mme Bertrand Joly, par Alfred Dreyfus. Pour vous-même, en tant qu'historien, en tant qu'homme même, j'allais dire, est-ce qu'il demeurera le capitaine Dreyfus ou vous l'appellerez le général désormais?
J'ai toujours appelé le capitaine Dreyfus, même quand il est devenu commandant, mm-hmm. lieutenant-colonel, donc je n'ai pas envie de changer.
Donc ça ne changera pas.
Ça ne changera pas.
Merci à tous les deux de cette discussion sur l'histoire, la commémoration, la mémoire. Bertrand Joly, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, auteur du livre intitulé « Histoire politique de l'affaire Dreyfus » qui est paru en 2014 chez Fayard, et Sébastien Ledoux, historien spécialiste des enjeux de mémoire, maître de conférence à l'Université Picardie. Jules Verne, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Vichy était-il la France ?»« Le Veldiv et sa mémoire » qui est paru le mois dernier chez J.C. Lattès. Merci à tous les deux d'être venu ce soir.
Merci.
Du soir.
Merci.